Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast spécial consacré à Hong Sang-soo et son dernier film Awon et les hommes qui sort en salle le 16 octobre. Et qui dit podcast spécial dit invité spécial, c'est pour ça que nous accueillons Sidi Sakho. Salut Sidi.
Salut.
Donc tu es ancien rédacteur en chef d'Une fois le cinéma, actuel blogueur pour Ceci dit Obamo, oui. Chroniqueur pour Chronicart, matraqueur pour Cinématrack, ouais. Parce que j'oublie des choses.
Ex-chroniqueur pour Chronicart.
Ex-chroniqueur pour Chronicart.
Mais je collabore au site effectivement Cinématrack et à Feu Croisé.
Et à Feu Croisé, ouais. Voilà. Donc on peut lire tes articles sur tous ces sites.
Disséminés un peu partout.
Et particulièrement sur ton blog, quoi. Si tu veux en dire deux mots d'ailleurs
pour. Ceci dit Obamo, c'est un blog que j'ai ouvert il y a presque un an et demi maintenant, où je ne me suis imposé aucune forme de rigueur. La seule ligne éditoriale, c'est celle de mon humeur du moment. C'est le partage d'une vie de spectateur où j'essaye d'alterner entre longs articles analytiques, aussi bien sur l'actualité que sur des films anciens. Et petite rubrique un peu expérimentale avec parfois d'autres plumes. Je pense qu'on aura peut-être d'autres choses à dire
okay, dans le cours de l'émission. Très bien. Ouais. Et donc, Julien Tialon, qui est aussi avec nous, donc blogueur sur istasia.fr dans un futur blog qui sera hébergé par le site. Ce sera quoi le nom de ton blog, d'ailleurs?
Ce sera Shaya World, je pense.
Shaya World.
Voilà, ça abordera surtout principalement l'animation japonaise dont je suis fan. Et aussi divers rubriques, comme un peu le blog de Sidi, en fonction de l'humeur. Voilà.
Ok, animation japonaise, ça tombe bien, puisqu'on va, on va un petit peu en parler, malgré le fait que le podcast soit presque entièrement consacré à Hong Sang-soo, sauf la première partie. On va d'ailleurs commencer avec une première rubrique qu'on va appeler l'autocritique, dans laquelle on revient un peu sur le podcast précédent et sur ce qui s'est passé. C'est un peu une rubrique de courrier des lecteurs, donc pour l'instant on n'en a pas, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la partie commentaires qui est juste en bas, ou à nous envoyer des mails à home@istasia.fr. On les lira et on y répondra donc tous ensemble dans le podcast suivant, qui sera le podcast numéro 3. Et on va commencer par la première autocritique. Lors du dernier podcast, j'ai commencé à parler du festival du film coréen de Strasbourg qui se tient du 15 au 19 octobre. Sauf que c'était toi, Julien, qui devais en parler. Et comme tu n'étais pas là et que j'avais absolument rien préparé sur la question, finalement, on n'en a pas parlé. Donc, est-ce que tu peux rattraper le coup, vite fait, pour parler de ce festival qui se tient à Strasbourg et qui présentera donc quelques films, j'imagine?
Bah, bien sûr. Bah, mieux vaut tard que jamais, mon cher Victor. Alors, c'est le festival du franco-coréen de Strasbourg, qui est à sa cinquième édition et qui avait fait une pause depuis 2010, donc là qui re-rentre dans le circuit avec une nouvelle organisation et une nouvelle formule, et qui arrive pour cette édition avec deux invités prestigieux, deux réalisateurs coréens assez connus du circuit festivalier, alors avec deux genres différents. Alors on a le réalisateur auteuriste Jang Song-il, j'espère que je prononce bien, que son dernier métrage était passé à l'édition d'Ovilloise, de Jules, et qui va sortir au cinéma, il me semble.
Exactement, pour nos plus grands malheurs.
Non, je défendrai ce film coûte que coûte. Moi, j'ai adoré.
Ouais, on fera un débat sur ce réalisateur, parce que moi, je trouve étonnant que ces films continuent à sortir en salle, alors que c'est vraiment un des réalisateurs les plus... les plus auteuristes, comme tu dis, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est très vide, il parle de quasiment rien. Pink, moi j'en ai un souvenir affreux, vraiment de 2 heures de ville.
Moi, je crois qu'on était 5 et il y en avait 4 qui avaient déjà fait la sieste, quoi. J'étais vraiment le seul à voir vraiment de bout en bout ce chef-d'œuvre cinématographique.
Mais donc il n'y aura pas que Pink.
Il n'y aura pas que Pink, mais il y aura aussi un autre de ses métrages qui a été sorti au cinéma, je crois, il y a un ou deux ans, c'était Entre Chien et Loup.
Oui, ils sortent tous.
Il y a
des centaines de films coréens qui restent inédits de manière inexpliquée, et ces films sortent tous en salle. Donc,
voilà. Mais il y a quand même un notable que, forcément, tu as dû au moins apprécier par son casting, c'était Destination Himalaya avec Chan Mi-sik, qui était aussi le retour de l'acteur sur le grand écran après tout ce qu'il avait fait sur les quotas coréens. Il disait « je ne vais plus revenir au cinéma, je vais faire du théâtre, tata, tata. » Et grâce à ce film, il est revenu au cinéma, puis après revenu aussi dans plus de blockbusters coréens, on va dire.
Oui, puisqu'il a enchaîné avec J'ai rencontré le diable.
Voilà, tout à fait. Malaya, voilà.
Donc, qui sont quand même les deux spectres du cinéma coréen, complètement opposés.
Voilà, choc des extrêmes, quoi. Donc il y aura ce réalisateur qui était déjà aussi invité pour la dernière édition du Festival de Vesoul.
Oui, mais il y a qu'en France qu'on voit ces films.
Bon, Victor, tais-toi.
J'ai hâte de dire du mal.
Voilà. Voilà. Donc, la représentation du cinéma coréen autoriste sera là. Et, à contrario, il y aura aussi un représentant du blockbuster d'action coréen en le nom de Kang Jung-kyu. Alors, j'espère que c'est bon. Qui est le cinéaste de Far Away, par exemple, Les Soldats de l'Espoir, qui est sorti en DVD il n'y a pas longtemps. Et je crois que Yannick avait chroniqué aussi le film.
C'était Jérémy qui avait fait une critique.
Ouais. Jérémy aussi. Je crois qu'il en avait pensé le... Pas du bien, je crois.
Ah non, t'as raison, c'était Yannick qui avait bien descendu.
Voilà, il avait un petit peu massacré, on va dire, à la hachette. Mais il avait fait aussi le très bon Frère de Sang, qui est un classique, en tout cas, en Corée. Et, ou alors Ginkgo Bed, que celui qui date un petit peu plus longtemps. Alors, niveau programmation, évidemment, on va retrouver aussi des films des réalisateurs qu'on a évoqués précédemment. Et on retrouve aussi des films de festival qu'on avait déjà couverts il y a un petit peu plus d'un an. Par exemple, on retrouve Barbie, de Link Sang-woo qu'on avait déjà critiqué pour le festival d'Asia Connection qui était le seul festival asiatique en ligne, c'était je crois il y a un an et j'en avais fait la critique et j'avais trouvé le film intéressant dans le traitement du sujet qui traite de l'handicap en Corée du Sud et j'avais trouvé ça pas mal et t'avais le qui et figure dans le film l'actrice l'étoile montante du cinéma coréen qui est Kim Sae-won qui avait joué aussi dans le long métrage français Une vie toute neuve qui était sorti au cinéma et j'avais beaucoup apprécié sa performance qui est aussi pas mal dans Barbie. Et sinon on retrouvera ouais vas-y Victor.
Non, j'allais justement te demander s'il y avait d'autres niveaux.
Non bah pour compléter il y aura aussi une soirée court métrage en provenance d'universités coréennes un petit peu comme ce que fait le festival franco-coréen de Paris qui aura lieu également un petit peu plus tard en octobre
dans une salle mystère que nous ne dévoilerons pas que nous avons déjà dévoilée alors qu'apparemment c'était pas encore d'actualité
officielle entre guillemets dernière. Voilà qui aura lieu au Médicis on n'a rien entendu. Et voilà, il y aura aussi d'autres films autoristes, voilà, pour compléter la programmation qui s'annonce quand même diablement alléchante. Et un petit peu plus, on est quand même assez content chez Istasia qu'il y a aussi des festivals coréens, pas uniquement dans la région d'Île-de-France, parce que tu as aussi l'Agora du cinéma coréen qui se déroule à Rouen, bon, pas enfin, très loin, mais c'est bien que le festival, d'autres festivals, d'autres villes françaises, surtout Strasbourg, qui aussi accueille d'autres festivals de renom, ben, puissent aussi promouvoir un petit peu le cinéma coréen en France.
Oui, parce que, enfin, absolument, même si je disais du mal de Pink et Entre Chien et Loup, ce sont des films qui sortent sur 10 copies France, qu'on peut voir ou pas, enfin, qu'on peut avoir la possibilité de voir ou pas à Paris, mais qui sont un peu plus difficiles d'accès dans d'autres villes de province, même des grandes villes comme Strasbourg, donc c'est plutôt pas mal qu'un festival puisse les remettre aussi en avant, même si vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Par contre, il y aura le Hong Sang-soo, donc là, en tout cas, vous pouvez voir si vous êtes à Strasbourg à ce moment-là.
Il y aura bien entendu une avant-première du dernier Hong Sang-soo, Aiwon et les hommes, dont nous allons revenir longuement dans une autre partie du podcast, pour ça que je l'ai oublié.
Voilà, alors moi, une petite autocritique justement, je veux revenir sur ce que j'ai dit sur Taifi. Taifi Hero, où mes propos pouvaient sembler un peu négatifs et condescendants envers les jeux vidéo, alors que ce n'était pas du tout le propos, peut-être pour certains joueurs, mais donc je ne comprends pas trop l'attrait pour les jeux vidéo, mais pas du tout pour le média, rassurez-vous. Voilà, donc l'utilisation en fait peut être passionnante dans certains films, mais on y reviendra quand on parlera de Bong Joon-ho et du transpersonnage. Par contre, effectivement, ce que je voulais souligner, c'était que dans Taifi Zero et Taifi Hero, il y avait une utilisation très superficielle des codes du jeu vidéo, qui était là uniquement pour séduire les jeunes spectateurs, et pas du tout une traduction cinématographique et un apport par rapport au code esthétique que peut avoir le jeu vidéo, donc c'était un point quand même important.
Donc tu n'as rien contre le médium jeu vidéo à la base?
Non, j'ai absolument rien contre le jeu vidéo, moi-même je n'y joue pas d'ailleurs, mais justement ça veut rien dire, et surtout il peut y avoir des utilisations passionnantes du jeu vidéo dans des œuvres cinématographiques.
Certaines œuvres t'ont marqué?
Alors j'aime beaucoup, bon là je vais faire des, je pense qu'on va hurler un peu le Silent Hill de Christophe Gans, hein, qui me semblait, voilà, c'était exactement la, ouais. Mais en tout cas ouais, qui utilisait intelligemment certains codes de jeux vidéo, enfin par exemple il y a un personnage qui se retrouve devant une carte à un moment et on voit un plan sur la carte, et on imagine le parcours qui peut être fait, qui est assez proche de la sensation qu'on peut avoir quand on joue à un jeu vidéo, donc voilà, c'est plus des traductions cinématographiques de certains codes qui me semblent pouvoir être intéressant que le médium en lui-même. Moi, j'ai pas touché un jeu vidéo depuis la fin des années 90, donc je peux pas vraiment voilà, trop développer là-dessus.
Je me rappelle à quel point j'ai détesté ce film. Ah ouais, non, c'était horrible. On était deux dans la salle et faut dire que c'était une souffrance de rester jusqu'à la fin.
Mais on avait parlé aussi de Scott Pilgrim, d'Edward White, hein, sur l'utilisation des jeux vidéo, justement par rapport à Taichi Zero et Taichi Hero. Moi, ça m'avait un peu ennuyé, cette succession de fight et de versus qu'il pouvait y avoir à la fin, mais il y avait quelque chose qui était fait esthétiquement par rapport à ces codes-là. Je ne sais pas si vous l'aviez vu ou pas, Scott Pilgrim versus The World de
Edgar White. Non. Ouais.
Je l'ai vu, mais il ne m'avait pas marqué.
Ok, bon bah voilà, ça c'était pour un petit point donc sur la critique de Taichi. On a eu des commentaires au niveau des détails techniques, c'est juste pour dire que là normalement le son devrait être bon, donc vous devez nous entendre, donc on a augmenté le son. Pour l'instant les podcasts sont toujours en 4 parties et je pense qu'on va les laisser comme ça, on verra peut-être pour les suivants si on met l'intégralité du podcast. C'est un peu lourd pour notre base de données qu'on n'a pas envie de surcharger trop rapidement.
On a tellement de texte en fait qu'on n'a plus de place pour un contenu musical. Voilà, quand même. Bon, c'est plus
bien. Alors, on va commencer ce podcast en revenant sur 3 news marquantes donc de la semaine ou de la quinzaine qui n'ont rien à voir avec Hong Sang-soo. On s'est dit qu'on devait parler d'Albator histoire d'avoir au moins plus que 50 lecteurs ou 50 auditeurs sur ce podcast. Et ça tombe bien vu qu'Albator revient donc à Space Captain Harlock, qui sera distribué en salle le 25 décembre. Julien, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette sortie ?
Ah bah ça fait un joli cadeau de Noël hein, pour tous les amateurs de la série d'animation qui a dû bercer leur enfance, entre guillemets. Le film est sorti, ce qui est un peu étonnant, c'est que le film est sorti le 3 septembre au Japon et que le délai pour arriver en sortie nationale, normalement, est au moins de 6 mois. Là, à titre d'exemple, prendre le One Piece Z, que normalement, il faut bien au moins 1 ou 2 ans, le temps que voilà, les droits soient achetés, que contractuellement tout soit fait, qu'il y ait les sous-titres et tout. Donc là, bon, ça fait vraiment une agréable surprise, en tout cas pour...
Globalement, ils ont fait un gros merchandising à Cannes, où il y avait des affiches du film un petit peu partout, il y a eu des projections, des projections.
Ah d'accord, textes, un petit peu comme le Dragon Ball Z, quoi.
Exactement, sauf que le Dragon Ball Z n'a pas été acheté, voilà. Mais en tout cas, sur Albator, ouais, il y a eu des gros projets événementiels, donc il a trouvé acquéreur assez
voilà, rapidement. C'est Ocean Film qui acquiert les droits. Évidemment, c'est produit par la Toei Animation. Et c'est TF1 Vidéo qui va déboucher sur une distribution DVD. Eux qui avaient également fait une réédition de la série, je crois, il n'y a pas longtemps. Et Yannick avait fait une très très belle critique pour cette série.
Ouais. Ouais, après, la date de décembre semble tout à fait logique, vu que les trentenaires et jeunes parents vont pouvoir amener leurs enfants voir la série qui a bercé leur enfance et faire découvrir ça. Après, moi, j'ai vu qu'il y avait un nouveau magazine qui s'appelle 30 ans et demi, et je trouve que ça va assez dans cette optique-là, enfin, qu'il y a les Cités d'Or en couverture. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, ce magazine. 30 ans et demi, ouais. Qui est en gros pour les adultes qui n'ont pas perdu leur âme d'enfant. C'est un peu le truc.
Ah, c'est nous.
Et le fait de sortir Albator qui vise les trentenaires est un peu dans cette mouvance là quoi.
Et quelques petits détails quand même sur le film en lui-même. Alors, faut savoir quand même que c'est un film qui est tourné exclusivement en images de synthèse et qui sera distribué en 3D. Ce qui est quand même extrêmement rare. Déjà, je crois qu'il n'y a que vraiment les gros blockbusters qui sont distribués en 3D. Alors pour un film d'animation japonais, alors là, c'est vraiment une très très faible probabilité que ça se produise, et on est très content que ça soit. Et c'est réalisé par le réalisateur japonais Shinji Aramaki, qui avait déjà produit aussi le film d'animation Appleseed, qui était très bon, mais qui n'était pas encore sorti dans nos contrées, en tout cas en salle.
Exact. Il y a même une citation de James Cameron sur l'affiche française d'ailleurs, ils ont repris cette citation, ou en tout cas sur l'affiche internationale, qui dit que c'est un des trucs les plus incroyables qu'il ait vu en 3D, voilà, peut-être depuis Avatar, j'en sais rien.
Ah bah écoute, si Cameron le dit, on peut que le croire quoi.
Et par contre, donc, on va avoir le droit de voir Albator au cinéma, par contre Ritipan, lui, va sortir uniquement en DVD. Et à la télévision avec l'image manquante, donc il n'aura pas de distribution salle, malgré sa présence à Cannes et lui en sélection officielle à un certain regard. où il a eu le prix Un Certain Regard.
Ah, c'est la mauvaise surprise au niveau des news. Là, autant Albator, on s'y attendait pas non plus, mais alors encore celle de Rittipan en DVD, on tombe un peu de haut, on va dire. Surtout vu la carrière du cinéaste, tout ce qu'il a fait. Je sais pas si tous ces films sont sortis au cinéma, mais quand même la plupart. C'est quand même très, très dommageable de voir surtout un film qui a une mise en scène apparemment atypique. Hein, je l'ai pas vu, mais j'ai lu les critiques.
Non, c'est très cinématographique et ça peut très bien passer sur grand écran. Ouais.
Voilà, tout à fait. Donc on va se rattraper déjà par une sortie DVD chez Arte Vidéo et une diffusion en avant-première sur Arte. Alors mercredi prochain, le 9 octobre à 20h50. Donc si vous pouvez l'enregistrer, c'est mieux. Ou sinon, il faudra patienter pour avoir l'édition DVD qui sortira le 19 novembre. Et à noter également un livre éponyme qui est sorti en octobre à la FNAC, qui retrace également, je pense, le contenu du film.
Et on connaît les raisons de cette absence de sortie salle ou
Pas du tout, justement. Il y a des suppositions. Alors effectivement, il me semble que c'est peut-être une coproduction télévisuelle, donc qui passe sur Arte le 9 octobre en avant-première. Après, ça n'avait pas empêché Dutch, le maître des forges de l'enfer, son précédent film, d'avoir également une diffusion télévisuelle en avant-première et de sortir dans un réseau de salles. Donc là, c'est un peu étonnant. Enfin, normalement, il y a au moins une sortie, on va dire, une sortie technique sur 10 salles. Voilà, à Paris, il passe à l'espace Saint-Michel et on peut quand même aller le voir, mais ou MK de Beaubourg, mais là c'est vrai que ça passe complètement à l'as. Et par contre, Julien, on pourra se rattraper à la Maison de la Culture du Japon, et c'est la troisième news qu'on a sélectionnée, où on pourra voir des Mizoguchi, et plutôt des bons Mizoguchi.
Voilà, tout à fait, ouais. C'est un cycle qui se poursuit à la Maison de la Culture du Japon, de revenir sur les plus grandes œuvres des cinéastes japonais. On est quand même à la cinquième série. Et là, ils ont décidé de faire un petit focus sur les studios d'Aei, qui est l'un des plus grands...
C'est sur l'histoire des studios, pas des réalisateurs, non ?
Ouais, mais
c'est...
après, ils font des focus, en fait, dedans, ils font des focus sur certains réalisateurs. Et les studios d'Aei, eux, ils ont un petit peu produit pas mal de réalisateurs très connus japonais, comme le Kurosawa, mais aussi Kenzo Mizoguchi, qui, lui, a droit à son petit focus de ses œuvres, allant des années 1951 à 56, où on y retrouve presque ses plus grands chefs-d'œuvre, avec l'intendant Sancho, ou les contes de la vague...
De la lune vague, après.
De la lune vague et de la nuit, voilà, que je n'ai pas vu, mais que j'irai voir, justement, à cette occasion sur grand écran.
Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur les news.
Je précise juste les dates pour la rétro Mizoguchi quand même. C'est quand même, ça s'étale du 9 au 19 octobre. Il y a une petite dizaine de films de prévus et je vous donne même les tarifs parce que c'est pas marqué sur le site et c'est 4€ la projection. Bon, voilà. Comme ça, n'est pas gratuit malheureusement.
Bon, on va se retrouver juste en dessous. Donc comme on a quand même nos podcasts, on en quatre parties pour parler de Avon et les hommes. A tout de suite.